Bonjour à tous. Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figures de l'Histoire. Les cloches de toutes les églises carillonnent. Paris est en fête. Nous sommes le 3 décembre 1368. Après 18 ans de mariage, Charles V le Sage et Jeanne de Navarre ont un fils, Charles. Trois petites filles l'ont précédée et elles sont mortes toutes les trois en bas âge. Le baptême est célébré dès le 6 décembre en l'église Saint-Paul, en présence d'une foule de barons, de dames, de demoiselles dans leurs beaux atours. Qui officie ? C'est le cardinal Jean de Dormance. Et puis, sur les fonts baptismaux, le gamin est tenu par Charles de Montmorency et Charles de Trie. Quatre enfants vont naître après Charles, dont le prince Louis de France, futur duc d'Orléans. Alors que sait-on de l'éducation de ce petit Charles ? Son père est un père attentif, très ferme. Il veut que son fils devienne un roi parfait, très pieux, de mœurs irréprochables et instruit. Donc, on ne néglige rien dans l'éducation du dauphin. Il a pour précepteur Philippe de Mézières. Alors qui est ce Philippe de Mézières ? C'est un chevalier picard qui a parcouru vraiment, on peut dire, le monde, c'est-à-dire l'Orient, l'Europe centrale, l'Espagne, l'Italie. Un homme très pieux, très vaillant et très cultivé. Charles apprend à lire, dans quoi ? Ben, comme d'habitude, dans la Bible. Philippe de Mézières lui donne comme maître Michel de Crène, professeur au Collège de Navarre. À 16 ans, le dauphin sait assez de latin pour comprendre sans traduction les discours interminables des représentants de l'université. Il lit beaucoup. Quoi ? Eh bien, surtout des romans de chevalerie. Son père Charles V l'associe très tôt aux principales cérémonies. Il lui apprend la manière de se comporter, de recevoir, de parler, de se tenir, de pratiquer cette courtoisie souriante qui caractérise les Valois. Pourquoi je vous dis les Valois ? Je vous fais un petit rappel. Quand Philippe IV le Bel meurt, il n'a pas d'enfant, si bien que c'est un neveu qui lui succède, et le fils de Charles de Valois. Donc, c'est la branche Valois qui maintenant règne. Alors, il lui apprend aussi à écouter les gens du peuple, ce qu'il fera d'ailleurs. L'enfant est agile, il est robuste, il excelle dans les exercices corporels, il aime les armes, les chevaux, les récits de guerre, la chasse. Il est élevé avec son frère Louis, qui a 3 ans de moins. Les deux frères, d'ailleurs, ont des points communs, mais Louis préfère la lecture à la chasse. Il aime raisonner, il parle facilement. J'en parlerai un peu plus tard de ce frère Louis. En tout cas, les deux frères sont traités à égalité. C'est-à-dire, même vêtements, même cadeaux, même maître. Louis ne deviendra pas roi. Charles V lui attribue le duché de Valois. Il espère bien régner jusqu'à la majorité du dauphin, ce roi Charles V. Mais il est malade. Il souffre, comme beaucoup des rois de France, d'une tuberculose chronique. Dès 1374, il a donc organisé sa succession en se disant « Il va être trop jeune quand je vais mourir ». Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il fixe la majorité du roi à 14 ans. S'il meurt avant que le dauphin ait cet âge, le duc d'Anjou, qui est son frère au roi, aîné, assumera le gouvernement du royaume, il assurera sa défense, il nommera les officiers, disposera du budget. La tutelle est confiée à la reine ou à défaut aux ducs de Bourgogne et de Bourbon. Ils seront assistés d'un conseil de tutelle. Été 1379, l'état de Charles V s'aggrave. Il est toujours aussi volontaire, toujours aussi intelligent, mais alors il ne veut pas prendre de repos, car depuis la mort de Du Guesclin, la chance semble se détourner de lui. Son règne, qui était glorieux, s'achève dans une atmosphère de trouble. En juin 1380, une épidémie de peste se déclare à Paris. Pour obéir à ses médecins, alors Charles V, il envoie ses enfants à Melun, où l'air est meilleur, et lui, il séjourne dans son manoir de beauté à partir du 31 août. Mais la crise fatale se déclare dans la nuit du 13 au 14 septembre, et il meurt le 16. Charles VI n'a pas 12 ans. Ses oncles, alors, vont organiser le pouvoir, c'est-à-dire, se le partager au mieux des intérêts de chacun, mais pas du tout dans l'intérêt du royaume. Ils tiennent pour nulles les décisions que Charles V a prises, même si le duc d'Anjou a juré sur la Bible de les respecter. Pendant 8 ans, ils vont conduire la politique. Alors, qui sont-ils, ces oncles-là? D'abord, Louis d'Anjou. Il a 41 ans. On dit de lui qu'il est sage, avisé, beau parleur, mais aussi convoiteux. Il pense amasser un trésor pour pouvoir voyager et conquérir. Il a mis ses talents au service de Charles V, assistant du Guesclin. À l'instigation du pape Clément VII, la reine Jeanne Ière de Naples, elle l'adopte et elle fait de lui son héritier en 1380, si bien que il va aller en Italie et évidemment s'emparer de Naples. Autre oncle, Jean de Berry, né en 1340. Il aime le confort de ses châteaux qui sont magnifiques. Il collectionne les beaux livres. Sous des dehors de paysans madrés, il reste un grand seigneur et pris de faste, sa principale préoccupation, c'est faire de l'argent. Philippe de Bourgogne, lui, il a 38 ans. Il s'est illustré à la bataille de Poitiers. Près de son père, c'est lui qui disait à cette bataille-là « Père, gardez-vous à droite, père, gardez-vous à gauche ». Il est resté prisonnier en Angleterre pendant 4 ans. Il a épousé la fille unique du comte de Flandre, ça c'est important. Si bien que Flandre et Bourgogne réunis, ça va faire de lui quelqu'un d'extrêmement puissant. C'est un soldat avant tout, un administrateur et aussi un politique avisé. Quand il en parle, le chroniqueur Froissart dit « Le duc de Bourgogne, qui était sage, froid et imaginatif, et qui sur ses besognes voyait loin. » Ça, on peut dire que c'est une de ses qualités. Alors lui aussi, il a secondé du Guesclin. Charles V l'employait comme diplomate. Et enfin, Louis de Bourbon. Alors lui, c'est un oncle du côté maternel. C'est une épée, mais aussi une âme pure et un cœur généreux. Nous allons faire une première pause musicale.
Virtutum regulam voluntas
Nous sommes sur Radio Grand Ciel, je vous raconte la vie de Charles VI et je viens de parler de ses oncles qui vont gouverner à sa place pendant un certain temps. Dès le lendemain des funérailles de Charles V, la brouille éclate. Louis d'Anjou réclame le gouvernement total du royaume et la tutelle des enfants royaux. Le duc de Bourgogne et le duc de Bourbon s'y opposent. Louis d'Anjou dit que c'est lui l'aîné. Alors on convient alors de l'arbitrage d'un conseil élargi. Ce dernier décide de faire sacrer Charles VI tout de suite, malgré son âge. Le duc de Bourgogne est chargé de conduire son neveu à Reims et profitant de son absence, Louis d'Anjou, c'est un vilain monsieur Louis d'Anjou, il fait main basse sur les joyaux du défunt roi et s'empare des 32 000 francs destinés aux dons et aux legs. Après ce vol, il rejoint le cortège royal. Charles VI est sacré le 4 novembre 1379. La cérémonie dure 6 heures. Eh bien, Charles VI remplit son rôle à la perfection. Il revient à Paris, se rend à Notre-Dame. S'en suivront 3 jours de réjouissance avec, pour les habitants, comme d'habitude, des fontaines de vin et des fontaines de lait. Alors il faut revenir aux choses sérieuses quand même maintenant. La régence de Louis d'Anjou a pris fin. Charles VI est censé gouverner par lui-même. En attendant, on va mettre sur pied un gouvernement de substitution. Et ça va durer. Des troubles ont assombri la fin du règne de Charles V. Le peuple en a par-dessus la tête de payer des impôts de plus en plus lourds, alors que l'économie régresse. L'anarchie s'installe en France. Il n'y a pas qu'en France que les troubles éclatent. C'est le cas aussi en Flandre, par exemple. La crise éclate à propos d'une taxe qui provoque le soulèvement des habitants de Gand. Alors, il s'élise un chef qui s'appelle Philippe van Hartevelde et il lui donne les pouvoirs d'un souverain, carrément. Il réunit 5000 hommes et marche sur Bruges, où se tient le comte de Mal. Le comte de Mal est à la tête de la Flandre. C'est sa fille qui a épousé Philippe de Bourgogne. Ce dernier battu s'enfuit. Philippe alors prend le titre de régent de Flandre. Mais Louis de Mal conserve Douai, Lille et la majeure partie de la Flandre française. Il implore alors l'aide de son suzerain. Et qui est son suzerain? C'est Charles VI. Donc Philippe van Hartevelde demande alors des secours aussi. À qui est-ce qu'il va demander des secours? À l'ennemi de Charles VI, c'est-à-dire au roi d'Angleterre. Alors raison de plus pour que Charles VI veuille prendre les armes. Le 12 novembre, l'armée royale se met en route par Lens en Artois, Seclin et Lille, et elle atteint Comines le 19 novembre. Pour l'armée du roi, ce n'est pas une campagne, mais une promenade militaire. Les habitants d'Ypres se soumettent tout de suite, et puis les villes qui l'environnent aussi. Van Hartevelde ne se laisse pas abattre. Il manœuvre pour couper la route à l'armée de Charles VI, qui se dirige vers Bruges. Si bien que les deux armées se trouvent face à face, dans la soirée du 26 au 27 novembre 1382. Grâce à la science du connétable Clisson, qui est à la tête de l'armée de Charles VI, cette armée, elle écrase les troupes de Van Hartevelde. Alors celui-là, on le retrouve même mort parmi ceux qui ont été tués. Le 11 janvier 1383, Charles VI est donc de retour à Saint-Denis. Depuis que la municipalité de Paris a reçu la lettre du roi annonçant la victoire, ça se passait à Rosebecq. Paris tremble. Pourquoi donc? Parce qu'on accuse les échevins de Paris d'entretenir des relations avec les Flamands qui se sont révoltés. Et plus grave, les Parisiens ont intercepté un convoi d'armes qui était destiné à l'armée royale. Alors là, ça va pas du tout. Le prévôt des marchands. Le prévôt des marchands, c'est un petit peu comme le maire de Paris. Il vient alors avec une députation de bourgeois. Tout le monde se jette aux genoux du roi, implorant le pardon. Seulement, le roi a été chapitré par son oncle de Bourgogne et il répond très vertement. il n'a pas l'intention d'entrer dans Paris autrement qu'en vainqueur et en maître. C'est ce qu'il fait. Il entre armé de toutes pièces, chevauchant son destrier, son cheval de guerre. Une nombreuse escorte qui le suit est armée. Alors les Parisiens ont peur quand même. Il se rend à Notre-Dame pour remercier le ciel d'avoir évidemment gagné. Les abords du palais, tous les points stratégiques sont occupés militairement, si bien que les Parisiens complètement terrorisés se dispersent, rentrent chez eux et s'attendent au pire. Le lendemain, ordre est donné aux Parisiens de remettre leurs armes sous peine de mort. Tout le monde obtempère. La nuit suivante, Jean Desmarais, Guillaume de Sens, un président du Parlement, des avocats, des notaires, 300 bourgeois compromis sont arrêtés. Et les exécutions commencent. Les plus riches sont taxés selon leur fortune. Au bout de 40 jours, le pardon est accordé aux Parisiens à de rudes conditions. Suppression de la prévôté des marchands, suppression des échevins, c'était un petit peu comme des conseillers municipaux, plus de milices municipales, plus de maîtrise des métiers, confiscation de la mairie. L'administration de Paris passe tout entière aux mains des agents du roi. Des mesures aussi rigoureuses sont prises à l'encontre de la plupart des villes de Languedoc, par exemple. Rouen doit verser 60 000 francs et perd son monopole de navigation sur la Seine. Eh bien, on peut dire qu'ainsi prennent fin la grève de l'impôt et les mouvements sociaux. Alors, du point de vue religieux, qu'est-ce qui se passe sous son règne? Eh bien, à cette époque, il y a un schisme. Vous vous souvenez, je vous en ai déjà parlé, puisque j'ai parlé des papes qui étaient en France. Donc, Urbain VI est un pape romain. Il dispute le pouvoir à un autre pape, un pape français, en Avignon, Clément VII. Le prélat chevalier Henri Despenser prend fait et cause pour Urbain VI. C'est un Anglais. Le roi de France, lui, il prend fait et cause, bien sûr, pour Clément VII. Alors les Anglais débarquent à Calais, battent les Flamands, occupe Dunkerque, Bergue, Beaubourg, Cassel, puis mettent le siège devant Ypres. Au secours, crie Louis de Mal, qui est à la tête de la Flandre. Au secours à qui? À son suzerain, toujours, Charles VI. Donc ce dernier se remet en campagne, il arrive à Arras, Despenser, l'Anglais, prend peur et se sauve jusqu'en Angleterre. Nous allons faire une deuxième pause musicale. sommes sur Radio Grand Ciel. Je vous raconte la vie de Charles VI, qui a mis les Parisiens au pas et qui vient de battre les Anglais. Louis de Mâle tombe malade et il meurt le 30 janvier 1384. Alors, il y en a un qui est content, c'est le duc de Bourgogne, puisqu'il a épousé la fille de Louis de Mâle à la tête de la Flandre. Alors, il s'en réjouit beaucoup parce qu'il va avoir un territoire absolument important. Alors, il s'en réjouit, je vais préciser, intérieurement seulement, hein, parce qu'il fait figure quand même triste à l'enterrement de son beau-père. Quand je dis le duc de Bourgogne, je vais vous préciser qu'il avait un surnom. C'est lui qu'on appelait Philippe le Hardi. Donc, Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, parvient à séduire tout le monde et fait reconnaître son autorité dans presque toute la Flandre. Il n'y a qu'une ville qui rechigne, c'est Gand. Et voilà que Louis d'Anjou meurt, l'aîné des oncles, si bien que ça renforce la position de son frère, le duc de Bourgogne, au sein du conseil royal. Et sans en avoir le titre, finalement, en fait, c'est lui le régent du royaume. Et pourtant, Charles VI a 17 ans, et le papa avait dit qu'il serait majeur à 14 ans. Philippe peut alors le marier. Alors on cherche, mais lui, Philippe, il a déjà choisi sa femme. Bien sûr, ça serait un mariage politique. Et Philippe, il a visé où ? Dans la famille de Wittelsbach. C'est la même famille que Louis II de Bavière, le futur Louis II de Bavière, et puis Sissi. Il voit bien son neveu épouser une princesse de Bavière. Alors on arrange une rencontre à Amiens. À elle, on ne lui a rien dit, on ne lui a pas dit qu'elle allait rencontrer Charles VI. Mais lui, il est au courant. La rencontre a lieu le 14 juillet. Eh bien, Élisabeth, qu'on va surnommer Isabeau en France, elle plaît beaucoup au roi, qui décide de l'épouser. On ne demande pas son avis, bien sûr, à Élisabeth. Le 17 juillet, la mariée est conduite à la cathédrale d'Amiens au milieu d'une brillante escorte. 3 jours après, Charles VI, il la plante là et il s'en va où son devoir l'appelle, c'est-à-dire à la guerre. Et elle, Isabeau, on lui dit d'aller s'installer au château de Creil et elle ne reverra son mari que le 25 septembre. Le duc de Bourgogne, lui, il entend servir de père et de guide aux deux, aux jeunes époux. Et bien sûr, à travers eux, il pense à continuer à diriger les affaires du royaume. Alors, à quoi ressemble ce couple ? Elle est petite, le buste assez long, les jambes courtes, un teint de brune, alors qu'à l'époque, on aimait beaucoup les blondes, les cheveux et les yeux noirs. Pourquoi ? Ben, elle les a hérités de sa mère, qui est Taddea Visconti, une Italienne. Elle est souriante, enjouée, elle porte bien la toilette et les bijoux. Finalement, elle a quand même beaucoup de charme. Et elle a l'âme toute allemande. Elle aime passionnément sa Bavière natale, ses montagnes, ses forêts. C'est une Wittelsbach. Elle a épousé Charles VI, dit-elle. Pas la France. Eh bien, retenez bien ça parce qu'on en parlera. Charles, lui, il est grand, les épaules larges, très robustes, le teint clair, les cheveux blonds. C'est un cavalier remarquable, un tireur d'élite, un chasseur sans pareil. Les traits dominants de son caractère, c'est la douceur, la clémence. Il prend plaisir à s'entretenir avec les petites gens. Il est courtois, très généreux, il aime beaucoup faire plaisir et rendre heureux ceux qui l'entourent. En ce temps-là, les princes se déplacent beaucoup. Eh bien, pour Charles VI, ça devient une véritable manie. Il lui faut sans cesse changer de décor, céder aux pulsions de son imagination, et on peut dire qu'il y a là le signe d'une instabilité dont personne ne s'émeut pour l'instant. Isabeau, elle est d'abord conduite au château de Beauté, puis de Vincennes, et enfin à Paris, à l'hôtel Saint-Paul. Qu'est-ce que c'est que cet hôtel Saint-Paul ? Eh bien, en fait, c'est un ensemble de bâtiments reliés par des galeries, pourvus d'un jardin qui descend vers la Seine. Il est situé au bout, si vous vous imaginez la chose, il est situé au bout de la rue Saint-Antoine. Au logement s'ajoutent des écuries, des ateliers, des cuisines, plusieurs chapelles et un donjon. Tout est meublé luxueusement. Charles décide alors de passer les fêtes de fin d'année avec Isabeau et, comme elle est bonne cavalière, il lui offre pour Noël une selle de palefroy. Le palefroy, c'était un cheval destiné surtout aux dames, mais qui n'allait pas à la guerre. Puis, le duc de Bourgogne suggère de faire un véritable voyage de noces à Melun, Saint-Germain-en-Laye, Montbuisson. Alors, tout le monde part au début de janvier 1386. On revient à Paris. Isabeau est enceinte. L'été arrive. Charles VI se met en route pour la Flandre. Le 25 septembre 1386, naît à Vincennes le dauphin Charles, baptisé par l'archevêque de Sens. Charles VI n'est pas là, il est au camp de l'Écluse. Et pourquoi donc? Pour prendre sa revanche sur les Anglais. Le pouvoir royal anglais et l'économie sont au plus bas à cette époque-là. Les Écossais multiplient les incursions et les pillages. Je vous rappelle que l'Écosse ne fait pas partie de l'Angleterre pour l'instant, hein. C'est un royaume à part. De plus, l'oncle du roi Richard II, le duc de Lancastre, part avec 20 000 hommes pour conquérir, dit-il, la Castille. Donc l'Angleterre est dégarnie, Charles VI se frotte les mains, c'est donc le moment de tenter quoi ? Un débarquement sur le sol anglais. On consacre 8 mois aux préparatifs. 800 cavaliers, plus les chevaux bien sûr, 5000 piétons, 8000 cavaliers et leurs chevaux, 50 000 piétons, 1500 navires. À la tête de ça, le connétable de Clisson, qui fait construire une forteresse de bois démontable, c'est astucieux, hein. Les charpentiers peuvent la monter en quelques heures après le débarquement et elle servira de point d'appui, on dirait maintenant de logistique, hein. Eh bien oui, mais le débarquement n'aura pas lieu. Ni maintenant, ni plus tard. Et pourquoi donc? Eh bien d'abord à cause du duc de Berry. Ce dernier qui doit aider, il est jaloux du duc de Bourgogne, il veut faire échouer l'entreprise. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'attarde en Languedoc, dont il est le gouverneur, avec ses soldats. Et le débarquement n'ayant pas lieu, Charles VI regagne Paris, content de connaître enfin son fils. Hélas, quand même, le fils meurt 2 semaines après le retour de son père. Il est inhumé à Saint-Denis. Fin janvier, les voyages recommencent. Le roi, qui est pris par sa passion de la chasse, hante toutes les forêts avec chiens et piqueux. Les préparatifs de guerre ont nécessité beaucoup d'argent, d'où évidemment des impôts supplémentaires. Et bien, le peuple en a assez. Il en a aussi assez des oncles. Le peuple voudrait bien un roi à part entière. Louis de Touraine, qui est le frère du roi, hein, plus jeune. Le connétable Olivier de Clisson, bureau de la rivière et d'autres conseillers disent à Charles VI, il faut absolument que vous vous soustrayiez à l'influence de vos oncles. Son frère Louis lui rappelle que la politique menée par leur oncle de Bourgogne, en fait, elle ne se fait qu'aux frais de l'État pour son bénéfice à lui. Eh bien, celui, il n'a que 17 ans. Mais il est extrêmement intelligent. C'est un analyste subtil. Il observe beaucoup, il lit beaucoup et il veut aider son frère. Seulement, Charles, lui, il est d'une loyauté qui parfois égare le jugement. Il n'aime pas retirer sa confiance. Ça l'ennuie beaucoup, beaucoup de se séparer de son oncle. Cependant, on peut dire que Louis prêche un converti, parce qu'il a fini, Charles VI, par se rendre compte que quand même, il avait été complaisant bien longtemps. Il prend sa décision. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, je vais fêter l'anniversaire de mon sacre. Alors, il réunit à Reims les princes, les grands officiers, les membres du conseil, les hauts représentants de la noblesse et du clergé. Et il dit qu'il veut tenir un conseil élargi afin de discuter de différentes questions. Le conseil a lieu, et à la fin de celui-ci, Charles VI se lève, remercie ses deux oncles de leur peine et des travaux qu'ils ont effectués et déclare que dorénavant, il gouvernera tout seul. Philippe est prié de regagner son duché de Bourgogne, le duc de Berry sa lieutenance du Languedoc. Voilà Charles Ier roi. Le premier acte est de rappeler aux affaires les anciens conseillers de son père. Cette équipe prête serment de n'avoir qu'une volonté, de suivre la même ligne politique, de s'entraider en toutes circonstances. Bon, Charles VI est content, hein, il approuve. Il est sensible à la misère des pauvres, alors il veut les aider, en finir avec le désordre et le gaspillage. Tous ces conseillers-là, c'est assez amusant, on leur a donné un surnom, on les appelait les marmousets. Alors je dis que c'est assez amusant, mais en fait un marmouset, c'est évidemment un être imaginaire, mais pas très beau. Hein. Alors ils commencent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils commencent par épurer les grands corps de l'État. Il ne s'agit pas de tout bouleverser, mais de clarifier, de préciser, d'adapter à la conjoncture. Nous allons faire une dernière pause musicale. Sur Radio Grand Ciel, je vous raconte la vie de Charles VI qui enfin est roi par lui-même et qui a engagé les anciens conseillers de son père, lesquels entreprennent évidemment de mettre le pays sur pied. Donc, je viens de vous le dire qu'ils commencent par épurer les grands corps de l'État. Ils ne veulent pas tout bouleverser, mais clarifier, préciser et s'adapter à la conjoncture. Ils renouvellent les cadres, ils recrutent des jeunes qui sont méritants et surtout, ils insufflent un esprit nouveau dans l'administration. On réforme l'impôt, justement, pour aider les plus pauvres. Ces conseillers savent désormais que la paix est nécessaire. Donc, dès leur arrivée au pouvoir, eh bien, ils entament des négociations avec l'Angleterre. Les Anglais disent qu'ils acceptent d'en finir avec un conflit qui dure depuis l'accession au trône de Philippe VI de Valois. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il a succédé à son oncle Charles IV le Bel, lequel n'avait pas de successeur. Seulement, les Anglais ne veulent pas perdre leur place forte en France, si bien qu'ils font tout pour faire capoter les réunions. Les négociations sont très difficiles et n'aboutissent pas. Alors, les conseillers de Charles VI là, sont beaucoup plus heureux avec Jean Visconti. Qui c'est ça, Jean Visconti ? Bien, c'est un Italien fort riche. Sa fille Valentine doit épouser le frère de Charles VI, Louis de Touraine. Les noces, d'ailleurs, ont été célébrées par procuration. Seulement, Jean Visconti, il a bien du mal à verser la dot. Alors, on discute. Et les Français sont gentils, hein. Les Marmousets acceptent qu'ils payent en plusieurs fois. Donc, les choses s'arrangent et le mariage peut avoir lieu. Et les Marmousets décident de mettre le roi en valeur. Parce que souvent, on l'a vu toujours accompagné de ses oncles, et c'était les oncles qui prenaient la place. Donc, on va donner des fêtes grandioses. Ce qui plaît à la noblesse, hein, mais c'est aussi, ça plaît aussi aux Français, parce qu'ils aiment bien le panache. Hein. La grande fête, la première grande fête a lieu à Saint-Denis, c'est le berceau de la dynastie capétienne. Hein. Elle commence le 1er mai 1389, et ça va durer 4 jours. On adoube Charles et Louis d'Anjou. Ce sont les cousins germains du roi. Puis, c'est un tournoi, et puis la célébration des funérailles du duc d'Guesclin. Vous allez me dire, duc d'Guesclin, mais il est mort. Oui, mais je vais vous expliquer après. Charles VI veut éblouir ses invités. Il veut les émerveiller. Alors, il fixe lui-même le programme des festivités. Il règle lui-même le décorum. Il a beaucoup d'imagination, hein. Ça ne lui manque pas. C'est d'abord l'adoubement de Louis, qui a 11 ans. Il porte le titre de roi de Sicile. Et puis son frère Charles, qui est comte du Maine, et qui a 9 ans. Le soir du premier jour, donc des fêtes, le roi conduit les deux petits princes dans la basilique pour une prière. Normalement, il aurait dû y avoir toute une nuit de prière. Mais le roi pense qu'ils sont vraiment trop jeunes et que ce n'est pas la peine de leur infliger ça. Le lendemain, Louis et Charles se présentent, suivis d'une escorte de chevaliers et d'écuyers. Après la célébration de la messe, les deux enfants sont conduits devant le roi. Ils s'agenouillent. Le roi leur fait prêter serment, il leur ceint l'épée, il les frappe sur le cou en disant « Soyez bons chevaliers ». Il leur donne le baiser de paix et ils reçoivent la bénédiction de l'évêque. La journée se termine par un festin puis un bal. Alors après ça, commencent les joutes le 3 mai. Le roi attire tous les regards avec une cuirasse dorée merveilleuse. Il joute avec ardeur parmi les chevaliers et rivalise de prouesse. Le soir, banquet, distribution de récompenses. Le mardi et le mercredi, c'est au tour des écuyers et des chevaliers de combattre sans le roi. Toujours un banquet, toujours un bal. Eh bien, on peut dire que jamais Charles VI n'est paru aussi gai, aussi brillant et aussi resplendissant de santé, quand on pense à ce qui va se passer après. Le 6 mai, le roi et ses invités s'habillent de noir. Charles VI veut célébrer la mémoire du connétable du Guesclin, lequel est mort il y a 9 ans. Et il est enterré à Saint-Denis. Alors il y a une messe de requiem, avec un cercueil exposé dans le chœur, recouvert d'un drap d'or brodé à ses armes. Le lendemain, l'équipement militaire du défunt est présenté et remis à l'évêque d'Auxerre, c'est celui-là qui officie. Ce dernier prononce l'éloge funèbre du défunt. La fête finie, le roi et la reine remercient leurs invités et chacun rentre chez soi avec les présents qui ont été distribués généreusement. Le roi de France n'a son pareil nulle part en Europe. Et certains disent même qu'il est le plus grand roi du monde. Au revoir à tous.